Bonsoir à tous. Que le Seigneur bénisse notre rencontre. On a prié pour cela et je crois qu'il va vraiment bénir ce moment. Je le crois non pas parce que je m'appuie sur moi, mais parce que c'est le Seigneur. Et le Seigneur est bon et le Seigneur veut faire des bonnes choses dans nos vies. Alors comme vous le savez, on parle du couple. Bon, je ne vous en parle pas plus, hein, je veux dire, vous êtes au courant. Donc, dans ce partage ce soir, je voudrais simplement que dans la vie du couple, c'est moi, nous, personnellement, qui sommes partie prenante de l'action. Et je voudrais parler à chacun ici ce soir, en tout cas partager quelque chose parce que je l'ai partagé avec moi dans ce sens-là, sur ce que moi, en tant que partie du couple, je dois faire. Et donc, à ce titre-là, quand je parlerai de l'autre personne du couple, je dirai l'autre. De façon à ne pas personnaliser parce qu'on ne va pas s'attarder sur l'autre. On va s'attarder sur soi. Parce que je crois que il y a deux choses qu'on maîtrise. Ou plutôt, il y a deux choses qui sont fiables. C'est là où on regarde et Dieu. Le reste, on ne maîtrise rien. Le reste sont des circonstances, des personnes, des individus, des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas changer. Donc, on va parler de ce qu'on peut changer, de ce que Dieu peut changer quand on en parle avec lui, nous-mêmes. Donc voilà, je voudrais simplement rappeler cette notion qui est abordée dans ce passage où Jésus parle de ceci dans Marc chapitre 10, versets 2 à 8. Les pharisiens l'abordèrent, Jésus, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier. Et Jésus leur dit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ce précepte. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne seront plus deux, mais ils seront une seule chair. On retrouve aussi dans ce passage dans Éphésiens, repris par Paul, Éphésiens 5, 31. Jésus rappelle qu'effectivement, dès la création, le sens normal de celle-ci, c'est que l'homme s'attache à sa femme, et je suppose que la femme va s'attacher à l'homme en retour, et ils deviendront un. J'aime bien le geste LSF pour cela. Le geste LSF, c'est ça. J'aime beaucoup. Donc le problème, hein, si ça ne fonctionne pas, c'est à cause de la dureté du cœur. Dureté qui veut dire, bien sûr, dur, rude, abrupte, raide. Hein, raide, moi ça me parle en tout cas. Vous savez, quand on ne peut pas plier. Hein. Concernant l'homme, sévère, dur, concernant les choses, violent, rude, offensif, intolérable. Voilà le mot qui est utilisé. Cette dureté de cœur s'applique bien à l'homme naturel sans Dieu. Combien de fois dans notre cœur n'avons-nous pas rejeté sur l'autre notre difficulté à marcher selon la norme de Dieu, que nous voudrions bien sûr respecter, mais nous voulons être trouvés respectables. Mais je voudrais simplement rappeler ce soir que notre marche ne dépend pas des autres, mais de nous seulement. La condition, effectivement, comment se libérer de cette mauvaise attitude, celle d'attendre trop de l'autre? Croire qu'on est le seul à faire des efforts et que l'autre n'en fait aucun et ne voit pas nos efforts, par nos propres efforts, on va arriver à dominer tout ça? Je ne crois pas. Il est vrai que nos choix sont à faire. Il y a des choix à faire. Mais les efforts personnels, on l'a remarqué, je l'ai remarqué dans ma vie, sont bien souvent voués à l'échec. Nous retournons facilement à nos vieilles habitudes. Vous savez, quand on est découragé, quand on a l'impression que ça ne s'arrangera jamais, eh bien, on revient à ses vieilles habitudes, on laisse tomber tous les efforts qu'on a pu faire et on redevient la personne désagréable qu'on était avant. Qu'on n'était pas au courant qu'on était désagréable, mais les autres étaient au courant. Mais c'est cette relation qui... C'est à ce stade-là qu'il faut regarder à Jésus, qu'il faut regarder à Jésus et se concentrer sur Jésus parce qu'il est notre libérateur. Je crois que Jésus nous libère du péché, c'est une chose. Je crois que Jésus nous libère continuellement. Je crois que c'est une action permanente de libération. Et ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est vrai que notre tendance naturelle, quelquefois, a envie de remonter à la surface et on a besoin de cette libération en permanence. C'est pour ça que ne pas regarder à Jésus en permanence, c'est une erreur tactique. Il faut regarder à Jésus en permanence et se reposer sur lui en permanence, aller le chercher, établir une relation avec lui et ainsi avec le Père. Et c'est cette relation qui va nous aider à marcher selon la volonté du Père. Dans Psaume 147, 11, il est dit « L'Éternel aime ceux qui le craignent, ceux qui espèrent en sa bonté. » Et j'aime bien cette formule. Dieu aime ceux qui espèrent en sa bonté. Espérer dans la bonté de Dieu. Vous savez, on espère en Dieu, on espère plein de choses. Et puis, quelquefois, on se dit, ben non, ça ne va pas se réaliser parce qu'il n'y a rien qui s'ouvre devant nous. Ça a l'air bloqué. Mais Dieu est bon. Ce n'est pas bloqué. Dieu est bon. Simplement, il faut espérer dans cette bonté. Mais on a cet esprit coupable qui revient à la surface en permanence et qui vient nous dire, tu ne fais pas ce qu'il faut, tu es nul, tu n'y arriveras jamais, laisse tomber. Dieu veut nous aider, nous devons le croire, ne pas en douter, espérons toujours en sa bonté qui ne dépend pas de nos capacités. Alors, comment atteindre cet objectif? Comment ne plus faire qu'un? Un des premiers éléments, c'est espérer. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. L'espérance en Dieu, c'est une force de patience, de paix, qui nous envahit. C'est le Saint-Esprit qui nous remplit si nous nous soumettons à lui. Paul en donne aussi des éléments qui sont la joie et la paix. Je crois que ça aussi, c'est un élément de révélation de la présence du Saint-Esprit, c'est notre joie et notre paix. Si vous n'êtes pas dans la joie, si vous n'êtes pas dans la paix, alors que vous avez l'impression de faire tout ce qu'il faut, c'est que quelque part, vous ne faites pas tout ce qu'il faut. Ou plutôt, ce qu'il faudrait faire, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Et c'est vrai que quelquefois, ça nous rassure d'être dans l'action. Hein, ça nous rassure d'être en train de construire quelque chose, de faire des efforts. Mais quelquefois, le Seigneur ne nous demande pas des efforts. Il nous demande le contraire, il nous demande de nous abandonner et d'espérer en lui. Mais ça, c'est l'expérience qui va arriver en nous petit à petit. Dans votre couple actuel, passé ou futur, êtes-vous, avez-vous été ou serez-vous porteur de cette paix, de cette joie, indépendamment de l'attitude de l'autre. Apporter la joie, la paix, quelle que soit l'attitude de l'autre. C'est un sacré programme. Mais c'est un choix à faire. Ce n'est pas une réalité de circonstances. C'est un choix qu'on fait. C'est un engagement qu'on prend, non pas vis-à-vis de l'autre, mais vis-à-vis de soi-même. et vis-à-vis de Dieu. Vous savez que l'autre n'est pas toujours en phase avec nous-mêmes. Bon, je ne sais pas comment ça se passe dans vos vies, mais moi j'ai connu ça. Et même si son cœur appartient à Dieu, hein, que l'autre soit comme vous ou pas comme vous, une chose est certaine, être en phase avec l'autre, ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas et il faut gérer ce genre de circonstances. Il faut arriver à passer à travers ça. Et le Seigneur veut nous aider à passer à travers ça. Et c'est pour ça qu'il y a des attitudes fondamentales à avoir. Bon, évidemment, si l'autre n'est pas du tout dans la même phase que vous au point de vue de la foi spirituelle, bien, c'est évident qu'on n'est pas en phase. Mais ça ne change rien. Le chrétien, c'est qui ? Et les règles chrétiennes sont lesquelles ? Toujours les mêmes. Elles ne changent pas. Qui apporte la joie et la paix ? Celui qui a la joie et la paix. Celui qui connaît la source. Et cette force, cette présence du Saint-Esprit qui nous est indispensable pour grandir dans la bonne direction, Dieu nous la donne librement. Il est possible de se sentir découragé par moments, parce qu'on ne voit aucun changement se produire dans notre marche, dans notre relation avec l'autre, chez l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut patienter. Ça, c'est un autre élément. Il faut espérer, mais il faut patienter aussi. Parce que tout n'arrive pas d'un seul coup. Et nous avons un Dieu qui nous montre l'exemple. Comment ? Simplement en étant patient. Parce que nous savons que lui, il est patient avec nous. Qui d'entre nous n'a pas remarqué que Dieu était patient avec lui ? D'accord. Vous êtes comme moi, vous avez bien remarqué cette chose-là. Dieu est vraiment patient avec moi. Vraiment patient avec moi. Et pourtant, bon, des fois je suis un peu têtu quand même. Non, têtu, c'est un peu gros quand même. Non, je suis un peu motivé dans le mauvais sens. Et Dieu supporte notre argumentation, même s'il n'est pas toujours d'accord, même s'il n'est pas toujours bienvenu, même s'il n'est pas toujours justifié. Seulement, il la supporte, mais il ne la laisse pas faire. Il va transformer notre pensée petit à petit, afin que nous puissions comprendre quel est son message réel, quelle est sa volonté réelle. Dieu ne va pas nous abandonner, désespérer de ne pas nous voir grandir. Non, il continue à nous suivre, à intervenir dans notre vie afin que nous puissions être comme son fils Jésus. Dans Colossiens, au chapitre 1, versets 9 à 11, il est dit ceci, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants. Parce que, effectivement, il faut de la patience. Vous avez remarqué, même quand on éduque un enfant, il faut de la patience. À la fin, quand ils sont bien éduqués, qu'ils sont grands, etc., on a l'impression que ça a été facile. Qui parmi les parents a trouvé que c'était facile ? Bon, je vois que personne ne lève la main. C'est pas si évident que ça. Il faut être là, il faut être présent, il faut être patient, il faut continuer, recommencer. Dans l'évolution du couple, son évolution personnelle, il en est de même. Mais, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Je crois que c'est un élément du couple qui est fondamental, c'est la joie. La joie, apporter la joie. Vous savez, comment, même dans une famille, quand il y a des enfants, s'il n'y a pas de joie, mais quel enthousiasme ça va donner aux enfants ? Je veux dire, ils vont aller chercher la joie ailleurs. Et c'est ça qui est important, partager cette joie. Ne pas abandonner, c'est un autre élément fondamental. Parce qu'effectivement, c'est quelque chose d'important. Dans Matthieu, au chapitre 7 et au verset 7 à 8, il est dit ceci par Jésus, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, Frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Jésus nous invite à maintenir notre espoir en permanence par le fait de continuer à demander, de continuer à chercher, de continuer à frapper, de ne pas se décourager. Parce qu'il y a toujours un moment où il y aura des réponses, toujours un moment où une porte va s'ouvrir, toujours un moment où effectivement on va nous donner ce qu'on a besoin. Et ça signifie quoi dans notre relation de couple ? Eh bien, il faut maintenir le dialogue, ne jamais rester découragé, parce que quelquefois, il arrive qu'on soit découragé. Il m'est arrivé de partir, en claquant la porte, faire un tour de voiture, calmement, à peu près calmement, pas au départ, mais un retour plus calme. Parce que c'est quelque chose qui est important. Revenir et... Je suis parti du principe qu'il était important de, non pas régler ses problèmes avant de s'endormir, parce qu'il y a des problèmes qu'on n'arrive pas à régler, mais de se pardonner et de se faire pardonner. Parce que c'est important de pouvoir dormir en paix. Et quelquefois, effectivement, on est obligé de regarder à soi et de se dire, ma réaction, je la justifie, mais est-elle vraiment justifiée ? Est-ce que j'aurais pas pu réagir différemment ? Et ça aide à s'approcher vers l'autre en ouvrant son cœur et en sortant de ses certitudes. Chercher encore et encore à comprendre ce que Dieu veut et ce que l'autre veut. Parce que quelquefois, on croit comprendre ce que l'autre veut. Mais en réalité, on n'a rien compris. Et ça peut durer quelques années. Mais... C'est pour ça qu'on reste encore ensemble, j'essaye de tout comprendre. Mais là, c'est un défi. Mais non, je crois qu'il est important, cette notion-là, de rester toujours ouvert à ce que peut-être on n'a pas tout compris et que nos certitudes ne devraient peut-être pas en être. Et qu'on a besoin peut-être de continuer à écouter, de continuer à s'approcher de l'autre et à s'ouvrir à l'autre et à laisser l'autre s'ouvrir à nous et à l'aider dans ce sens-là. Ça ne veut pas dire qu'on approuve l'autre dans tout, mais on essaye de comprendre, on essaye de faire attention. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Frapper décide d'aller vers l'autre. On fait le premier pas. Hein ? Vous savez, on a toujours le truc, mais non, mais moi je suis juste, j'ai fait tout comme il fallait, si l'autre n'est pas content, il n'a qu'à venir. Ok. C'est comme ça qu'on a quand même pas mal de gens qui se séparent. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut savoir faire le premier pas. Qui est celui qui nous a dit d'aimer ses ennemis ? Jésus. Alors s'il dit d'aimer ses ennemis, je dirais aimer sa femme, c'est quand même le minimum. Aimer son mari, c'est le minimum. Donc je crois qu'effectivement, des démarches, faites du bien, donnez à manger à ceux qui ont faim, etc., même vos ennemis, donnez-leur à boire, c'est Jésus. Donc effectivement, tout ça, c'est une démarche personnelle. Pourquoi ? Parce que dans Romains chapitre 14, verset 12, Paul rappelle ceci, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Difficile à ce stade-là de dire c'est la faute de l'autre. Dieu nous regarde et nous suit de près. Nous n'aurons pas d'excuses à lui donner pour nos manquements. Seigneur, si tu m'avais donné un autre conjoint, je serais meilleur. Je ne crois pas que ce soit un bon argument. Dans cette épreuve, si on répond comme ça, c'est que notre cœur dur a bien triomphé. Mais je ne crois pas que ce soit ce genre de cœur que Dieu veut qu'on ait. Alors, effectivement, quelle attitude ? Eh bien, je pose cette question, suis-je le bon représentant de Dieu dans mon couple ? Dans Matthieu, chapitre 19, verset 19, il est rappelé ceci, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans Philippiens, chapitre 2, verset 3 et 4, il est dit ceci, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. » Alors effectivement, comme « autre » et au pluriel, ça ne concerne pas le couple. Qui croit ça ? Merci. ça concerne le couple. Hein? L'humilité dans le couple, regarder l'autre comme au-dessus de soi-même et considérer son intérêt en plus du sien, pas simplement le sien. Ah, je reprends. Je considère pas simplement mon intérêt, je considère l'intérêt de ma femme et le mien. Parce que c'est fondamental. On ne fait plus qu'un. Alors, c'est pas évident de voir l'autre au-dessus de soi-même. Ben oui, je veux dire, vous avez remarqué quand même, quand on vit ensemble, on a tendance à bien connaître les défauts de l'autre. Bon, rassurez-vous, l'autre connaît bien vos défauts aussi. Mais donc, voir l'autre au-dessus de soi-même, c'est moins évident. Et ça demande effectivement un effort particulier de regarder avec ce regard que donne Jésus, d'être humble et de regarder l'autre au-dessus. Je crois que l'idée de regarder l'autre au-dessus, ce n'est pas la notion de le voir comme supérieur, mais de se voir comme serviteur. Et je crois que c'est cette dimension-là qui est fondamentale dans nos relations. Être serviteur des intérêts de l'autre. L'amour sans condition de Dieu vis-à-vis de nous, c'est la base de ce que nous, nous devons éprouver envers l'autre. Dieu ne nous aime pas pour ce que nous sommes, il nous aime, point. Enfin, il nous aime, point. Non, c'est, point, c'est la ponctuation. Hein. Il nous aime vraiment. Dieu nous aime vraiment. Vous savez, quelquefois, j'ai entendu ça dans l'éducation des enfants. Si tu te comportes mal, non, je t'aime si tu te comportes bien. Donc, je t'aime pas si tu te comportes mal. Mais c'est pas ça la bonne attitude. L'attitude de Dieu vis-à-vis de nous, c'est je t'aime, point. Non, je t'aime vraiment, point. Et il n'y a rien d'autre à rajouter. Bon, maintenant, j'aimerais bien que tu te comportes comme il faut. Parce que ça serait quand même cool et on vivrait beaucoup mieux en harmonie tous les deux. Et je crois que c'est un peu la même idée, je veux dire, dans la relation du couple, c'est on aime l'autre, sans condition, sans rien, on aime l'autre. Bon, maintenant, on essaye, comme on ne peut pas changer le comportement de l'autre, on peut peut-être changer le sien. Et c'est là où c'est quelque chose qui est important. Alors, effectivement, l'autre question, c'est si moi, est-ce que je suis le bon représentant de Dieu dans mon couple ? L'autre question, c'est est-ce que l'autre l'est ? Ce que l'autre est, on l'a vu, ne regarde que lui-même. Mais notre comportement a des conséquences pour l'autre. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 14, il est dit ceci, « Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Notre famille est mise à part pour Dieu grâce à notre engagement personnel avec Dieu. C'est une réalité spirituelle dans nos familles. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une réalité. L'autre élément dans 1 Corinthiens, chapitre 7 et au verset 16, dit ceci, « Car que sais-tu, femme ?» si tu sauveras ton mari, ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme ? Et oui, il y a des questions auxquelles on n'a pas de réponse. Il y a des limites à notre pouvoir d'influence. Nous ne pouvons pas changer l'autre par nous-mêmes. C'est l'affaire du Créateur. Jésus lui-même annonce ceci lors de son retour. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Alors, que nous soyons le témoin de Dieu dans notre couple. Je crois que c'est ce qui est essentiel. Et effectivement, ce qui importe dans Romains chapitre 12 au verset 3, il est dit ceci, « Car par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de ceux qui sont parmi vous, de ne pas avoir une haute pensée de lui-même au-dessus de celle qu'il convient d'avoir, mais de penser de manière à avoir de saines pensées selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Ici, il précise cette notion de pensée d'humilité. Il n'est pas question de se rabaisser, il est question d'avoir des saines pensées. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, parce que Dieu a départie à chacun des mesures de foi qui ne sont pas toutes les mêmes. C'est pour ça que chacun avance à sa façon. Donc restons humbles, quelle que soit la situation qui est la nôtre. C'est souvent notre orgueil qui entraîne les échecs. Certains n'acceptent pas leur impuissance et finalement détruisent ce qu'ils voudraient construire. Certains se disent « je veux changer ma femme, j'ai commencé par là ». Et on discute, on parle, il n'y a pas de changement. Quelquefois, il y a même vu que quand on discute dans ce sens-là, j'ai particulièrement, ce qui me concerne, tendance à insister. Et plus j'insiste, et plus elle résiste. Et je sais que ça se passe dans l'autre sens aussi, après avoir discuté avec d'autres personnes. Vous savez, il y a un moment donné où c'est l'affaire de Dieu. Ce que je suis, c'est l'affaire de Dieu aussi, mais c'est aussi mon affaire. Ce que l'autre est, c'est l'affaire de Dieu. Et Dieu s'en occupe. Alors, il est dit ceci justement, dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 13 à 16, « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Que l'autre voit votre lumière, voit vos bonnes œuvres et ainsi soit entraîné à glorifier Dieu. Est-ce que l'autre voit vos bonnes œuvres? Est-ce que l'autre voit des bonnes œuvres? Alors, qu'est-ce que je maîtrise? Dans 1 Corinthiens, Paul rappelle ceci au chapitre 7, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Il y a une réciprocité à maintenir et on ne peut pas priver l'autre de certaines choses. Chacun peut voir ici ce qu'il concerne, mais il n'est pas évoqué ici le fait de condamner l'autre parce qu'il ou elle n'agit pas comme il faut. Vous savez, des fois, c'est ce genre de cri. Tu devrais te comporter autrement. On sait bien quand il s'agit de ranger les chaussettes, mais quelquefois, ça dépasse certaines limites. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 4, il est même dit ceci, « La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. » Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. La notion de « je fais ce que je veux avec mon corps » n'est pas valable dans le couple. Dans le couple, il y a des éléments, on a l'impression qu'on perd quelque chose, mais en réalité, on gagne quelque chose. On passe à autre chose. Et ça, c'est quelque chose qui est intéressant. Et nous sommes appelés, effectivement, à nous lier l'un à l'autre. Et dans 1 Corinthiens, chapitre 7, au verset 5, il est dit ceci, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. » Quelquefois, vous savez, c'est ce désir de vouloir avoir une vie spirituelle intense qui fait que quelquefois on se dit je prie, demain peut-être ou après-demain ou la semaine prochaine. Et puis finalement, petit à petit, il y a une séparation qui se produit. Je crois que là encore, il y a de la sagesse à avoir. Et notre référence absolue reste quand même le Christ. Ce rappel de Paul nous dit ceci dans Éphésiens 5, 21, « Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » La crainte ici étant le respect de la volonté de Jésus. Et je peux dire quand même que je contrôle ma soumission, pas celle de l'autre. Éphésiens 5, 2, dit ceci, et marchez dans la charité, l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Je donne librement mon amour. Librement. Il n'y a pas de condition pour recevoir mon amour. Je crois que c'est quelque chose qui est fondamental. Tu mérites, tu ne mérites pas, ça n'a rien à voir. Je t'aime. Et le respect, dans Hébreux au chapitre 13 et au verset 4, il est rappelé ceci, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Le respect de l'autre est fondamental, quel que soit son comportement. Je parle toujours de notre marche personnelle dans le couple. Hein? Alors, il est évident que si chacun marche de la même façon, c'est un peu plus facile. Mais devant Dieu, ce qui est important, c'est qu'au moins, moi, je marche comme Dieu le veut. Je peux vous dire, je vous le dirai peut-être après, mais il y a réellement une bénédiction. Une vraie bénédiction. Quand on respecte ces choses-là, la paix est réelle. L'amour est réel, la joie est réelle. Mari et femme, dans ce qui suit, ne prenez pas pour vous de juger si l'autre remplit son rôle ou pas. Hein? C'est le rôle de Dieu. Mais priez pour l'autre, pour qu'il puisse remplir le rôle que Dieu attend de lui ou elle. Ça, c'est, je dirais, une base. Même si vous ne voyez rien, vous savez, on voit l'invisible. On voit ce qui pourrait être et ce qui peut-être va être avec la bénédiction de Dieu. Mais comme c'est invisible, pour l'instant, ce n'est pas visible. Et c'est là l'espoir. La dimension de l'amour pour notre femme est bien définie ici, pour notre mari aussi, mais ici pour la femme. Donc je parle des maris dans un premier temps. Éphésiens 5, 23, « Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. » Nous avons ici la vision de Dieu pour le couple. La position du mari, ce n'est pas un statut, c'est une responsabilité. D'accord ? De la même façon que Jésus a donné sa vie pour l'Église, pour la simple raison que c'était la condition pour que les églises existent et aient une chance de vivre. Eh bien, Marie, donnez votre vie de la même façon. Colossiens 3, 19 nous dit ceci, « Marie, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » Il y a cette notion, vous savez que quelquefois, quand on n'obtient pas ce qu'on veut, etc., on finit par commencer ça trotte dans notre tête, ça prend de l'ampleur, et on finit par, effectivement, avoir des attitudes et des pensées qui créent la séparation. Il faut éviter de tomber dans la facilité et la critique. Gardons la foi en Dieu, parce que Dieu peut tout changer. S'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas, effectivement, et il y en a beaucoup, Dieu, lui, on peut lui demander. Demander, frapper, chercher. Ça marche toujours. Et n'oublions pas quelquefois aussi que Dieu se sert de l'autre pour nous faire grandir dans la foi et dans la sagesse. Dans Éphésiens 5, 28, 29, il est dit ceci, « C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église. » La notion de devenir un ici, prend de l'ampleur. Prendre conscience de l'implication de la vie en couple. Nous devenons une nouvelle personne unique. Une équipe qui gagne. Ça a toujours été ma vision. On est une équipe qui gagne. Bon, après, moi, je sais ce que je veux gagner. C'est pour ça que le Seigneur est en premier. Marie, dans 1 Pierre au chapitre 3, verset 7, « Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible, honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie, qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Alors, si la notion de sexe plus faible vous choque, attachez-vous à la première et à la troisième partie qui sont fondamentales. Sagesse dans vos rapports avec vos femmes et honorez-les comme devant hériter de la grâce de la vie éternelle avec vous. Et que ça permette effectivement qu'il n'y ait aucun obstacle dans vos prières. Proverbe chapitre 5, verset 19 nous rappelle ceci. Biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Bon, c'est poétique, hein? Mais ça donne bien la direction. Sans cesse épris de son amour, enivré de ses charmes. Il y a une façon de regarder l'autre. Et ça, c'est important. C'est nous qui décidons de la façon dont on regarde l'autre. Et mettre en valeur ce qui est bon chez l'autre, c'est comme ça qu'on doit regarder. Pour les femmes, il est dit ceci dans Éphésiens 5, 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Je crois que chercher à connaître la volonté du Seigneur est la première étape. La connaître est une chose, la comprendre en est une autre, c'est la deuxième étape. Et il nous faut l'éclairage du Seigneur lui-même. De même, la construction d'un couple ne se fait pas par le mari seul. Il faut être deux et agir en harmonie pour que cela fonctionne et soit motivant. Et mettre son point de vue, ses observations, ses remarques est indispensable pour l'équilibre de l'ensemble. Un double regard est plus précieux qu'un regard unique. Proverbe dira ceci, « Les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. » Je crois qu'il est important de s'écouter l'un et l'autre, parce que c'est comme ça qu'on arrive à prendre des décisions qui sont saines, et éventuellement d'aller chercher des conseils auprès de gens qualifiés. Mais n'oublions pas que c'est une conciliation qui peut prendre du temps, mais qui derrière contient une récompense fabuleuse. La bénédiction du Seigneur sur la nouvelle entité que nous formons ensemble est réelle. Nous perdons ce que nous étions individuellement pour devenir ensemble une entité qui n'est pas moindre, bien loin de là, mais tout aussi plaisante à vivre. C'est la récompense de construire quelque chose à deux et de réussir. Dans 1 Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 13, il est dit ceci, « Si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne le répudie point. » 1 Pierre 3, 1 dit ceci, « Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leur femme. » C'est un autre aspect du témoignage de Dieu dans la vie d'un couple. Chacun y témoigne de Dieu selon son cœur. Donc, je voudrais terminer là-dessus avec Dieu, tout est possible. Il ne nous unit pas une fois pour toutes, mais il nous unit jour après jour. Et que la fidélité soit respectée de chacun. Dans Proverbes, au chapitre 5, 15, 19, je vous donne le passage plus complet que j'ai lu tout à l'heure, la fin. « Bois les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Qu'ils soient pour toi seul et non pour des étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais la joie de ta femme, de la femme de ta jeunesse. » Biche des amours, gazelle pleine de grâce, soit en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Fais ta joie de la femme de ta jeunesse. Regarder ailleurs ne résout pas nos problèmes d'amour. Ecclésiaste nous dira ceci, chapitre 9, verset 9. Jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant tous les jours de ta vie de vanité, que Dieu t'a donnée sous le soleil pendant tous les jours de ta vanité, car c'est ta part dans la vie au milieu de ton travail que tu fais sous le soleil. C'est un engagement que l'on peut accepter de part et d'autre. Il n'est pas question de souffrir ensemble, mais de jouir. La joie est une partie intégrante de Dieu et de sa volonté. Alors oui, je pense que le Seigneur bénit les couples quand il y en a un qui est véritablement engagé dans sa marche avec lui. Quand il y en a deux, évidemment, il bénit aussi. Mais ce qu'on maîtrise, ce n'est pas ce que l'autre fait, c'est ce que l'on fait. Ce qu'on maîtrise, ce n'est pas l'attitude de l'autre, c'est l'attitude qu'on a. Mais derrière, Dieu agit, Dieu bénit, et les couples sont bénis à travers. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu nous permets d'entrevoir dans notre marche avec toi, Seigneur, et tout le bénéfice que nous pouvons en avoir entre un homme et une femme vivant en couple, Seigneur, et marchant sous ton regard, Seigneur. Nous voulons vraiment que tu bénisses dans notre Église tous les couples qui marchent avec toi, Seigneur, mais nous voulons aussi que tu bénisses tous les couples, Seigneur, dont au moins un marche avec toi, Seigneur, que tu renforces, Seigneur, la marche de celui qui est avec toi. Tu le rassures, Seigneur, et tu lui donnes d'avoir cette vision, Seigneur, de la bénédiction que tu vas faire pleuvoir sur son couple, Seigneur. Merci de bénir ceux qui désirent vivre en couple, Seigneur. Donne-leur d'avoir cette vision, Seigneur, ce regard, cette préparation de leur cœur, Seigneur, et aussi cette vigilance, Seigneur, sur comment marcher et t'honorer. Merci de tout le bien que tu nous fais. Loué sois-tu dans le nom de Jésus. Amen.